à vue d'esprit Pierre-Yves Moret. Cuivre, or, zinc, cobalt, ce sont quelques-unes des matières premières très convoitées sur le marché mondial et indispensables à nos industries. De grandes multinationales extraient ces précieux minerais au détriment souvent des droits humains ou des impacts sociaux et environnementaux. Deux œuvres d'entraide suisse, Pain pour le prochain et Action de Carême, s'inquiètent de ces abus et mènent campagne. À vue d'esprit s'en inspire et Gabriel de Sarzan et Evelyne Auberçon vous proposent une série d'émissions réalisées cette semaine par Gérald Yestan et Alain Perrottet. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le troisième volet de cette série intitulée L'Enfer des Mines. Gabriel de Sarzan, nous vous retrouvons, c'est vous qui nous proposez cette émission aujourd'hui. Et nous commençons par une citation d'un mineur bolivien. « La mine me donne à manger, me fait vivre, mais me tue lentement ». C'est une citation recueillie par le photographe Jean-Claude Vicky que nous entendions hier et qui nous décrivait les conditions de travail et les conditions de vie, surtout tragiques, en Bolivie.
Oui, des descriptions dignes des pages les plus sombres de Zola, au pire encore. Si Jean-Claude Vicky a voulu par ce biais raconter la vie des gens de la mine, il sait que sa description n'est pas complète, qu'il manque encore celle de l'économiste, du médecin, de l'historien, du sociologue, du politique.
Voilà, nous étions hier donc dans son témoignage personnel, dans la vision qu'il nous transmettait de ces mines. Aujourd'hui, vous nous proposez justement un éclairage différent.
Oui, je vous propose de rencontrer un pasteur et agent de développement tout à l'ouest du Congo RDC, à Boma.
Alors, c'est un témoin privilégié en quelque sorte des conséquences de l'action minière, notamment sur le plan existentiel.
Effectivement, Jacques Bakolo Dimapianda est pasteur évangélique, mais aussi coordinateur du CEPECO, le Centre pour la promotion et l'éducation des communautés de base. Il est l'hôte de la campagne de Carême sur l'extraction minière et il est non seulement un témoin des conséquences de l'extraction minière sur la population de son pays, mais il parle de ses différents combats. Et je vous propose de le découvrir dans l'église d'Urcy où il a prêché lors d'une célébration écuménique qui a été diffusée par la TSR.
Le peuple congolais vit dans une misère sans précédent, à tel point qu'il préfère la période coloniale. Parce que je peux vous assurer aujourd'hui que le Congolais naît pauvre, grandit pauvre, vit pauvre, meurt pauvre, enterré dans un sous-sol riche. Je vous parle maintenant de ma province, le Bas-Congo, à l'ouest de la RDC, à l'embouchure du fleuve. C'est une province pétrolière. Elle est aussi la deuxième province minière du Congo après les Katanga. L'exploitation pétrolière a commencé en 1967 et elle dure jusqu'à présent. Plusieurs entreprises anglo-saxonnes, belges ou françaises, sont passées au Bas-Congo. Elles ont exploité le pétrole, mais elles n'ont pas aidé les Congolais de cette province. Elles ont apporté la misère, la pollution, les maladies respiratoires et la sécheresse. Bref, une destruction totale de l'environnement. On a vu les poissons empoisonnés et des rivières entières sont devenues impropres à la consommation. La cité côtière de Mwanda est le siège de l'exploitation pétrolière au Congo. Mais c'est la ville côtière de l'Atlantique la plus sous-développée de l'océan. Les approches traditionnelles du développement en Afrique, comme ailleurs, ont insisté sur les rôles des ressources naturelles dans la promotion du bien-être économique et social de chaque peuple. Mais dans les faits, dans mon pays, l'exploitation des ressources naturelles a encouragé un déficit démocratique, la corruption et parfois des guerres civiles. Le résultat est que ma province fait partie des régions les plus pauvres. Du monde. Dans le classement du programme des Nations Unies pour le développement, la RDC est classée avant-dernière sur l'échelle du développement humain. Notez bien que la gestion des revenus de ces ressources repose plus sur une logique de production qu'une logique de répartition. On produit, mais on ne répartit pas. La population est simplement oubliée, ce qui crée les frustrations. Pourtant, les minéraux sont là, mais ils sont le plus souvent exploités artisanalement, par exemple l'or et les diamants. C'est donc avec la main, et parfois même la main nue, qu'on extrait ces matières du sol, et cela en quantité très faible. C'est plutôt la misère et le sous-développement des côtes entières qui est constaté.
Jacques Bakolo di Mapianda, est-ce que vous arrivez à nous dire quelles sont les luttes quotidiennes d'un mineur ?
Bon, les luttes quotidiennes, d'abord le mineur s'ignore lui-même, parce qu'il fait un travail qui le dépasse. Mais celui qui profite de son travail, c'est celui qui fait la commission, ou le commissionnaire, c'est celui qui fait la transaction entre l'acheteur et lui, c'est celui-là qui bénéficie. Donc le mineur, c'est un travailleur, c'est un malheureux qui s'ignore lui-même, qui travaille pour le compte, pour le compte des autres. C'est vraiment un travail qui n'a pas de sens.
Mais quand vous parlez de misère, ça veut dire quoi ?
La misère veut dire la souffrance, la pauvreté, la paupérisation. Parce que nos pays sont riches. Moi, je m'insurge contre ceux qui disent que la malédiction des richesses, c'est faux. Les richesses qu'on a n'est pas une malédiction. Mais c'est un paradoxe. Nos pays sont essentiellement riches. Mais comment comprendre que nous devons être pauvres ? Parce qu'on nous appauvrit. On nous appauvrit à un certain niveau. C'est-à-dire, les entreprises qui viennent chez nous viennent avec des cahiers de charges. De leur gouvernement, excellent, d'être honnête. Parce que nous ne pouvons pas seulement condamner nos gouvernements. Nos gouvernements sont affaiblis. Nos gouvernements sont souvent placés par les pays ici. Donc, ces pays doivent avoir de l'amour du prochain. Pensez à notre misère.
Quand les Saintes Écritures disent que chaque jour suffit sa peine, et l'oiseau ne sème pas, mais il mange. C'est vraiment ça, la vie du Congo. C'est pour cette raison que nos communautés locales s'organisent et se prennent en charge, car elles sont responsables de leur propre sort. Et pour qu'elles arrivent à se prendre en charge, l'organisation que je dirige, le CPCO, Centre pour la promotion et l'éducation des communautés de base, aide ces gens à s'organiser en association. Il les aide à créer des petites caisses mutuelles pour s'aider les uns les autres. Avec cet argent, les communautés arrivent même à créer des pharmacies locales et des petits dispensaires.
Alors vous êtes agent de développement dans cette région tout à l'ouest du Congo et vous avez aidé à la création de 118 associations paysannes. Pourquoi ?
Parce que moi, dans le travail de développement que je fais, ma spécialité c'est l'accompagnement des paysans. Je suis spécialiste en accompagnement des paysans. Donc moi, mon travail c'est d'aider les paysans à se mettre en association, à se regrouper pour que leur lutte soit possible. Parce que seul, ce n'est pas possible.
C'est-à-dire, en quoi consiste leur lutte ?
Leur lutte consiste au vécu quotidien. Vous voyez que, comme je dis hier à notre culte écuménique là, je dis hier que ce qu'on constate chez nous, il n'y a plus d'entreprise au Congo. Et les quelques entreprises qu'on trouve sont des entreprises pétrolières et autres, mais qui n'aident pas les Congolais à s'organiser. Alors, qu'est-ce qui s'est fait ? Les Congolais va dormir sans savoir ce qu'il mangera demain. Et peut-être que si la rivière est proche et elle n'est pas encore polluée, il peut avoir un bidon de 5 litres d'eau qu'il va boire demain. Mais le Congolais n'a pas de provisions, il n'a pas de budget, il n'a rien. Alors, cette lutte-là, c'est quoi ? La lutte consiste dans la survie. Dans la survie. Alors, quand il fait l'agriculture, c'est une agriculture de survie qui ne peut pas l'aider à faire des économies. Mais quand ils sont ensemble, quand ils sont en groupe, quand ils sont en équipe, ils vont faire des champs communautaires et des champs individuels. Alors, aujourd'hui, on va travailler dans les champs de M. X ou Mme X. Tout le monde va là-bas. Ils sont 10, 20, 30. Ils vont là-bas. Demain, ils vont chez un autre. Et puis, il y a un champ pour tout le monde. Le fait d'être en communauté, ça leur permet de produire plus et de gagner plus pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir survivre. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Ils n'ont pas de travail. Ils sont tous chômeurs. Alors, il faut contourner le chômage.
Et ça, c'est une alternative, finalement, à l'extraction minière.
Bon, alors, au lieu que les gens continuent à extraire les minerais qui ne les aident pas, nous les aidons à comprendre qu'en dehors des mines, ils peuvent aussi survivre et mieux. C'est comme cela qu'en se regroupant, ils font l'agriculture, et ils font l'élevage, ils font la pisciculture. Alors, toutes ces histoires-là, ça leur permet de laisser ce travail de mine qui les fait mourir. Et puis, encore un autre travail que nous sommes en train de combattre, c'est la carbonisation. Parce que ça, c'est presque la monnaie courante, faire des braises pour vendre. Mais en faisant les braises, on coupe les bois, même les bois fruitiers, ce qui provoque encore une destruction totale de la forêt et qui a des effets néfastes sur l'environnement qui est détruit. Et là aussi, nous combattons. C'est comme ça que ces gens qui viennent faire l'agriculture, on les amène aussi à les aider à faire aussi les reboisements. Donc ça, c'est, je voudrais répondre d'une pierre deux coups. Voilà, la lutte du CEPECO, c'est ça. Protéger l'environnement, protéger la vie humaine, créer du travail au niveau local.
Donc justement, vous êtes coordinateur du CEPECO, le Centre pour la promotion et l'éducation des communautés de base. Et dans ce cadre-là, vous luttez pour la mise en œuvre de lois qui tiennent compte des intérêts des communautés locales. Alors, quelles sont les lois que vous avez pu faire valoir ?
Le CEPECO, c'est une ONG qui travaille depuis 20 ans maintenant. Ça, c'est notre 21e année qu'on vient de commencer. Alors, dans la lutte du CEPECO, on fait un plaidoyer et puis un lobbying très fort au niveau local, provincial, national et international. Au niveau du pays, nous amenons le gouvernement, l'Assemblée provinciale nationale, à produire des lois qui doivent tenir compte des intérêts, des aspirations des communautés.
Est-ce que vous avez réussi ?
Oui, nous avons déjà réussi. Aujourd'hui, je vous parle. Si la RDC a maintenant une loi sur les hydrocarbures, nous avons contraint les ministres des hydrocarbures à l'époque. Nous avons insisté pour qu'on puisse opter maintenant pour les contrats de partage. Alors, mais la loi qui venait d'être produite sur notre action, ça c'est la loi qui est centrée sur les contrats de partage. Maintenant, nous venons encore d'influencer dans le cadre de la foresterie communautaire. Parce que notre pays a maintenant une loi sur la forêt. Ce qu'on appelle le code forestier. Cette nouvelle loi, ce sont des forêts qui vont appartenir aux communautés. L'État va les leur donner.
Et vous amenez aussi les entreprises extractives à appliquer leurs responsabilités. Ça veut dire quoi ?
Ok. Ça, c'est notre lutte depuis 20 ans maintenant. Et on continue. C'est-à-dire quoi ? Les entreprises qui viennent extraire, exploiter chez nous, ce sont des multinationales qui proviennent d'ici, de la Suisse, de l'Europe entière, des États-Unis, de l'Asie, de n'importe où. Ils viennent avec leurs capitaux pour venir exploiter chez nous, que ce soit le pétrole, que ce soit le cuivre, que ce soit les diamants, que ce soit l'uranium, que ce soit l'étain, que ce soit l'or, que ce soit les diamants, que ce soit les coltans. Maintenant, les coltans, la moitié du coltan utilisé au monde, ou les trois quarts, c'est les coltans congolais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ne nous aident pas. Notre guerre est que ces entreprises appliquent les responsabilités sociales, parce que maintenant, en lieu et place de développement, ces entreprises nous donnent de la pollution, nous donnent des maladies liées à la respiration, et nous empoisonnent nos rivières qui deviennent impropres à la consommation. Et quand vous voyez même le type de drilling pour faire échapper les gaz, quand vous venez chez nous, vous verrez pas moins de 100 torches qui brûlent le jour et nuit. Ça pollue l'environnement, ça pollue tout, ça détruit même la terre, ça ne produit plus, tous les arbres et fruits ne donnent plus. Et tout ceci, c'est les entreprises qui voient ça.
Est-ce que vous êtes en colère?
Je ne suis pas en colère, mais je suis, tu vois, en tant que défenseur des communautés, j'ai la paix et j'ai la joie, mais je suis frustré parce que les entreprises, au lieu de nous développer, elles nous détruisent. Comme Africain, je me sens dépossédé. Et c'est l'Europe, c'est le monde moderne qui nous dépossède. Ils viennent prendre tout ce que nous avons, et en revanche, ils ne pensent pas à nous. Voyez un peu votre pays ici. Il est développé à, je ne sais même pas à quel pourcentage. Mais quand vous vérifiez tout ce que nous utilisons ici, les matières premières viennent de chez nous. Vous n'avez pas pitié. Donc nous nous sentons dépossédés par le monde moderne.
Jacques Bakolo Di Mapianda, vous êtes pasteur à Boma d'une église qui regroupe plus de 700 membres, plus de 700 personnes. Est-ce que vous trouvez dans votre foi chrétienne le moteur pour vos différents combats?
J'ai été consacré pasteur depuis 1993, donc je suis quand même un ancien serviteur de Dieu. Pour moi, le travail de développement que j'ai fait, c'est mon deuxième évangile. Et à l'exemple du Christ, parce que Jésus-Christ, il a prêché la foi, le salut des hommes. Et il a aussi nourri les gens, il a guéri les gens, il a résisté les gens. Ça, c'est l'œuvre sociale. Alors moi, je prêche le salut, je fais le développement, c'est mon œuvre sociale. Donc je complète, pour moi, je suis complet. Une de mes valeurs, c'est l'amour du travail. L'amour du travail est soutenu par ma foi. La foi, c'est ce qui soutient mon combat. Je suis apolitique. Je ne suis pas politicien. Je suis un homme du peuple. Et j'ai commencé la lutte pour le droit des communautés. Et c'est la foi qui me fait faire ça. Parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas une entreprise qui produit, je ne suis pas commerçant, je suis pauvre, fils d'un paysan, et je suis moi-même paysan, je suis un villageois de naissance. Mais aujourd'hui, en tant que villageois, en tant que paysan, je fais entendre ma voix en Suisse. Comprenez que ça, c'est l'effort de la foi. Et c'est comme ça que je crois à ce que je fais.
Thank you.
la mission de veiller à la prise de conscience des communautés et surtout de soutenir leur foi. Elle a la mission de les encourager à se prendre en charge et à vivre dans la confiance. Mais en même temps, elle stimule le goût du travail car c'est en travaillant que les communautés peuvent se développer. C'est aussi à ce niveau que la mission de l'Église et le travail des ONG se rencontrent et se renforcent mutuellement.
Difficultés sur le chemin?
Bon, les difficultés sont énormes. En général, ce manque de démocratie de nos pays d'Afrique, c'est un obstacle. Un autre obstacle, je voudrais dire, c'est le comportement de nos amis et gouvernements des pays occidentaux. Pas seulement occidentaux, des pays développés, même les pays de l'Asie. Leur façon d'agir en Afrique, c'est un obstacle pour nous.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez qualifier leur façon d'agir?
Leur façon d'agir, ces pays nous demandent deux choses à la fois. Ils veulent qu'on applique la démocratie chez nous, mais ils soutiennent aussi les dictatures. C'est grave ça. Ces pays veulent que nous puissions nous développer, mais en même temps, ils nous exploitent.
Donc il y a un peu deux discours.
Il y a deux discours. Et moi, en tant que quelqu'un de la base, je dois dire ça. Pour que le gouvernement de ces pays comprenne qu'ils sont à la base de notre misère. Parce que si aujourd'hui ils se décident de nous aider, ils ont tous les moyens. Mais je ne sais pas ce qu'ils craignent. Moi, j'aimerais qu'on puisse produire une loi. Que cette loi oblige toute entreprise étrangère qui vient investir chez nous au Congo. Commence par implanter une entreprise de transformation. C'est-à-dire que l'État arrête l'exportation des matières premières, même des concentrés. Moi, je propose que l'État insiste sur l'exportation de matières finies. Par exemple, une entreprise
de transformation.
Oui. Je donne un exemple. Si une entreprise forestière vient au Congo couper les bois, la première obligation à cette entreprise sera d'implanter une scierie et une petite usine qui fabrique des meubles. Des chaises, des armoires, des lits, consorts, tout ça. Alors, toute cette chaîne-là crée du travail chez nous. Une entreprise pétrolière qui vient, qui va exploiter le brut. Au lieu de vendre le brut comme ça, moi je propose que cette entreprise passe par notre raffinerie, raffiner son brut et vendre les produits finis. Cela est pareil pour le cuivre, pour le cobalt, pour le diamant, pour l'or, pour le coltan et autres. Et là, ça va aider nos pays à éradiquer la misère dans mon pays, la RDC, et dans ma province, le Bas-Congo.
Yeah.
Jacques Bakoulou Dimapianda à votre micro, Gabriel. C'est un homme qui souhaite que l'on implante des entreprises de transformation dans son pays, la République démocratique du Congo.
Oui, ce qui donnerait du travail aux gens sur place et aurait une chance de favoriser le développement du pays. Jacques Bakoulou Dimapianda, rappelons-le, est à la tête d'une paroisse de 700 personnes à Boma et il se rend très bien compte des besoins immenses de sa population comme de sa misère.
Oui, parce que pour l'heure, la grande majorité des matières premières est exportée à l'état brut, donc elle ne profite pas concrètement, notamment pour sa transformation, à la population locale.
Exactement. D'ailleurs, je vous propose de parler demain du voyage de ces matières premières et de leur traçabilité.
Merci Gabriel, nous vous retrouvons donc demain à 10h30 pour une quatrième émission de cette série intitulée Dans l'enfer des mines. La réalisation est signée Gérald Diestan et Alain Perrotet. Et puis je rappelle que notre page internet contient de nombreuses informations complémentaires, son adresse esprit.rsr.ch. Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous voulez nous faire part de vos commentaires ou nous poser des questions précises sur la campagne de Carême à laquelle s'intéresse particulièrement à Vue d'Esprit cette semaine. Notre numéro de téléphone, le 058 236 60 70. N'hésitez pas donc à nous laisser un message, 058 236 60 70. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, restez dans notre compagnie. Juste après les informations, vous avez rendez-vous entre les lignes.
Programme des émissions religieuses de la RSR, une seule et même adresse internet, religion.rsr.ch. Vous trouverez également toutes les indications sur le programme musical.